Thierry, figure emblématique du service culture d'Europe 1, inénarrable conteur qu'on écouterait jusqu'au bout de la nuit et dont on espère que les meilleures histoires feront un jour l'objet d'un recueil chez Gallimard.
Oui, bonjour, je voudrais la mère. Oui, de Debussy ou Charles Trenet ?
Oh,
celui qui chante le mieux.
Thierry, pour votre entrée dans la compétition, vous avez décidé de frapper fort avec une chronique sur Charlie Chaplin, mais ni l'acteur ni le cinéaste, le musicien Thierry.
Exactement, Charlie Chaplin, l'homme orchestre, c'est le titre d'une exposition en place à la Philharmonie de Paris jusqu'à la fin janvier prochain. Vous avez du temps pour aller la voir, mais vous n'irez peut-être pas voir cette expo. Alors j'ai pour vous un coffret de 12 CD édités par le Chant du Monde. Ça coûte autour de 50 euros. 12 CD pour découvrir une facette méconnue de Charlot, le compositeur. Eh oui, ne faites pas cette tête-là.
Je ne fais aucune tête.
Eh bien, c'est Limelight, les feux de la rampe. Et c'est l'une des musiques les plus connues de Charlie Chaplin.
J'allais vous dire, en fait, j'ai l'impression de connaître, mais je ne savais pas si ça ressemblait à quelque chose de connu.
C'était Chaplin. En effet, oui.
D'accord. Donc Chaplin était compositeur.
Ah oui, alors il l'était à sa manière, hein, je dois dire. C'était une manière pas très orthodoxe, parce qu'il ne connaissait pas une seule note de musique, ce qui ne l'a pas empêché d'être violoniste, notamment. Oui, oui. À une époque, il a dit qu'il travaillait 5 heures par jour. Quand on ne connaît pas la musique, je ne vois pas ce qu'il pouvait faire avec son violon. On peut se dire, comme disait Bobby Lapointe, où tu joues juste, où tu joues de zigane. Donc, je ne sais pas s'il jouait de zigane. En tout cas, voilà, il rêvait de faire une carrière dans la musique, il s'était même offert un violoncelle, mais non, tout ça, il avait déjà beaucoup de temps à passer sur les plateaux comme acteur, réalisateur, scénariste, producteur, et comme il voulait tout contrôler, il écrivait donc aussi la musique de ses films, à partir du moment où ça a été parlant, évidemment. Hein.
Mais tout de même, Thierry, ça me paraît compliqué d'être compositeur quand on ne connaît pas une seule note de musique. Il faisait comment ?
He's a genius. Tout simplement.
Un bilingue.
Voilà ce qui se passait. Chaplin entendait la musique dans sa tête. Mais quand je dis qu'il l'entendait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il entendait la mélodie, l'orchestration aussi. Mais pour accoucher de tout ça, pour coucher sur le papier la musique qu'il avait dans la tête, alors il ne faisait pas appel à tout un orchestre parce que c'était compliqué. Il avait un pianiste avec lui.
Sauf que
le résultat, en général, ne lui plaisait pas du tout. C'était insupportable. Hein. Par exemple, il y a une anecdote, il dit « Où est l'harpe ?» Alors le pianiste lui dit « Non, c'est un piano. » Mais lui, il n'entendait pas de cette oreille, si je puis dire. Et il n'était pas du tout content de ce genre de réponse. Pas convaincu, en fait, parce que lui, il entendait l'harpe dans sa tête. Et donc, il entendait tout. Par exemple, l'ouverture du dictateur, il l'entendait dans sa tête. C'était ça.
Ça veut dire qu'il fredonnait l'air au pianiste,
et certains disent qu'il chantait pas toujours très juste. c'est un peu compliqué.
Mais cela de se faire engueuler aussi, ceux qui disaient ça.
Alors, il y a un jeu que vous connaissez tous, qui est le jeu des chaises musicales. Vous savez
oui.
ce que c'est
Mais alors,
qu'est-ce que c'était le jeu des chaises musicales quand on faisait une composition avec Charlie Chaplin, selon vous? Qu'est-ce que c'était les chaises musicales?
On était virés si on...
Oui, ça devait être ça.
Ça aurait pu être ça, non. Mais c'était pas ça. Alors en fait, c'est l'un de ses partenaires qui s'appelle Eric James, il a travaillé avec lui pendant 20 ans quand même, hein, qui dit, voilà comment ça se passait. Il était au piano, donc James au piano, Chaplin à côté de lui, fredonne, il dit, non, vas-y, mets-toi à ma place, donc il changeait de place. Chaplin, avec ses trois doigts, il essayait de jouer un peu ce qu'il avait dans la tête. L'autre se remettait au piano, donc ils échangeaient. Chaises musicales. Et c'était pas simple, hein, je dois vous le dire. Il y a une photo, notamment, où on voit l'enregistrement dictateur, tout le monde fait la tête sauf Chaplin qui rigole, donc on se dit que ça devait pas être simple. Dans le coffret, il y a plusieurs bonus, ça c'est très intéressant, où l'on entend Chaplin aidé par un associé musical, c'est aussi un terme qu'il employait. À mon avis, cette séquence est un peu scénarisée, mais c'est quand même un document assez extraordinaire.
Spring is here. The birds are calling, snails are crawling, wagging their tails for love.
Ça sent la mise en scène quand même. Hein.
Ça sent la mise en scène, ouais, effectivement. Mais c'est la vraie voix qu'on entend là.
Et oui, c'est vraiment lui.
Vraiment lui. Alors Charlie Chaplin, le compositeur totalement autodidacte, en plein travail, c'est ce qu'on a entendu là.
Qu'on a entendu. Alors pour la petite histoire, il disait qu'il n'avait eu qu'un seul professeur de musique et pas besoin de connaître la vie de Chaplin pour trouver la réponse. En fait, c'était un phonographe. Quand tu disais quel était votre professeur, il montrait un phonographe, il disait voilà, alors écoutez du Chopin, du Wagner et voilà, ça lui suffisait. Chaplin, à qui on doit une vingtaine de chansons, 15 heures de musique de film
quand même.
Et tout ça sans connaître une seule note de musique.
Ça, c'est fort. Et moi, combien d'émissions présentées sans connaître une seule notion de journalisme? Ça, vous vous posez trouvez pas la question, Thierry. Eh ben pourtant. Ah, avec vous, Chaplin, c'est pas sorcier. C'est bon ce titre d'émission, c'est pas sorcier. Je devrais le déposer. Jamy Gourmaud, vous êtes notre invité aujourd'hui pour Tu l'as dit, Jamy, une BD de vulgarisation scientifique très drôle. D'où ça vient le titre C'est pas sorcier? Comment c'est né? Pour nous, c'est tellement culte. Est-ce qu'un jour, autour d'une table, dans un bar, vous avez eu l'idée du titre? Comment c'est venu?
C'est Fred qui a eu l'idée du titre.
Ah, rendons-lui hommage.
Voilà, c'est Fred qui est arrivé un matin qui m'a dit j'ai le titre. Voilà, ça va s'appeler C'est pas sorcier.
Et justement, j'ai dit, cette émission C'est pas sorcier, c'est un concept que vous aviez, une pilote que vous avez proposé, ou c'est une commande de la chaîne à l'époque?
Deux, les deux en même temps. Il y a eu une conjonction, c'est ouais. Souvent comme ça d'ailleurs. Avec Fred, on bossait sur une émission scientifique, on va dire classique, avec des plateaux, des reportages. Et à l'issue de chaque émission, on se disait souvent, on n'a pas vraiment appris grand-chose, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus qu'au départ. Voilà. Et puis on a commencé comme ça à imaginer une émission idéale et on l'a couchée sur le papier. Alors souvent ça se passait le soir quand on dînait dans des restos. J'ai gardé la nappe en papier, je l'ai,
c'est vrai,
sur laquelle on a écrit l'architecture du concept.
Ah bah vous vendez ça, vous pouvez aller dans l'espace. Payez votre ticket pour l'espace.
Et donc, on est allé... alors, on a commencé à plancher, parce qu'on s'est dit, on ne va pas les présenter une nappe, un bout de nappe de papier au diffuseur.
Et tout de suite, banco.
Et au départ, quand on l'a présenté, d'ailleurs, on s'était dit, tiens, on va écrire cette émission, mais pas forcément pour nous.
Ah,
on présentait cette émission en se disant, voilà, il y a sûrement des
vous
animateurs
à vous, Eva,
oui.
Pour
talentueux qui vont présenter. Et là, il y avait un directeur des programmes, Claude Coudert, qui nous a dit non,
c'est vous
en parlez trop bien, c'est vous qui allez présenter l'émission.
Même si elle a tourné la page de l'opéra, sa voix magique résonne encore dans les travées du Metropolitan Opera New York. 2012, j'y étais, c'était pas dégueu pour user d'un euphémisme. Bonjour Nathalie Dessay.
Bonjour.
Depuis 5 ans maintenant, vous avez quitté le lyrique pour explorer mille et un projets. Aujourd'hui, vous nous présentez un disque où vous revisitez le répertoire de Nougaro. Pardonnez mon inculture vocale totale, mais pour passer de soprano coloratour, c'est-à-dire spécialiste des aigus, aux chansons de Claude Nougaro, un homme qui chantait, qui plus est, assez grave, c'est pas un peu l'équivalent d'un grand écart facial en gymnastique?
Si, je suis extrêmement souple.
Eh bien, ça commence fort.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, je chante pas du tout avec ma voix d'opéra.
Ça n'a rien à voir.
J'ai dû réapprendre, en fait. Désapprendre quelque chose pour réapprendre autre chose.
Oui.
Alors, et ça fait 2 ans que je prends des cours de chant pour chanter autrement,
voilà.
Précisément.
C'est là que je voulais aller, c'est-à-dire que Nathalie Dessay prend des cours de chant. Eva,
alors,
vous pensez
vous
que c'est possible?
Alors, vous moquez de moi quand je pose la question à la grande Sophie, parce que je lui demande si elle prend des cours de chant avant ses concerts, vous moquez de moi, mais là, à Nathalie Dessay, ça ne vous ennuie pas de lui demander?
Sans manquer de respect à la grande Sophie que j'adore et que je vais aller voir en concert bientôt, en termes de technique vocale, je pensais qu'aucun prof pouvait donner des cours à Nathalie Dessay. Dans quelques jours, sort sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, comme son nom l'indique. Vous y reprenez des standards de Claude Nougaro avec le pianiste Yvan Cassa.
Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.
Vous expliquez, Nathalie Dessay, que vous avez voulu explorer la part féminine de Nougaro. Elle m'avait échappé, sa part féminine.
Non, détrompez-vous, c'est un homme qui a magnifié et chanté la femme comme personne, mais avec justement beaucoup de tendresse et de féminité, je trouve.
Vous étiez fan depuis longtemps?
Oui, depuis toujours.
Vous l'aviez rencontré?
Oui, oui, mon mari lui a même fait une daube, qu'il a bien appréciée.
Ça, ça crée
des liens. Oui, ça c'est un scoop, hein, je n'ai jamais dit à personne.
Scoop Europe 1, le mari de Nathalie Dessay a fait une daube à Claude Nougaro. Ça a été compliqué, vous disiez en amorce de cette émission qu'il a fallu désapprendre à chanter parce qu'effectivement la voix d'opéra n'a rien à voir avec la voix qu'on utilise dans la variété. Ça a été dur pour vous? Vous êtes
très
surpris?
Dur.
Plus dur que vous ne l'imaginiez?
Oui, parce que je me disais, comme tout un chacun, qui peut le plus peut le moins.
Bah oui, c'est ce qu'on se dit.
Bah non, en fait ça marche pas comme ça. Parce que le corps est entraîné pour un certain geste et il faut déprogrammer ce geste-là pour en faire un autre.
Moi, je me souviens effectivement, à l'époque, il y avait des concerts caritatifs où on mélangeait chanteurs lyriques et c'était U2 qui avait Bono et Pavarotti. Et je me souviens, moi, j'étais pas fan d'opéra, je m'y connais pas très bien, mais j'écoutais de l'opéra quand j'étais jeune et j'attendais beaucoup Pavarotti. Et c'est vrai que Pavarotti chantant U2, ça marchait pas très bien. C'était compliqué.
Non. Oui, c'est compliqué parce que c'est pas
possible.
Style.
Le mec, il sait chanter Nessun Dorma, il n'arrive pas à chanter.
Non, et puis il faut apprivoiser le micro.
Et le rythme et aussi, peut-être, la rythmique.
Ah, alors ça, c'est encore autre chose. Justement, ne pas être dans quelque chose de carré, précis solfégiquement.
Nicolas Caro. Est-ce que ça veut dire que vous avez du coup perdu vos capacités à chanter du lyrique?
Non, non, parce que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et d'ailleurs, je chante toujours de manière lyrique, puisque je fais toujours des récitals avec Philippe Cassard. Donc, il faut préciser que je travaille avec des mecs qui s'appellent Cassard.
Ils s'appellent Cassard, mais c'est pas pareil. Ils ne sont pas frères,
ils n'ont pas de la même famille, rien du tout, rien à voir. Je les ai présentés l'un à l'autre l'autre jour. C'était très drôle, parce que Monsieur Cassard, je vous présente Monsieur Cassard. Donc, c'était assez drôle. Mais donc, avec Philippe, donc l'autre Cassard, nous faisons des récitals de leader et mélodie avec une voix donc lyrique.
François Barin, vous déclariez avant-hier dans Est Éclair, je suis un provincial. Vous allez adorer notre décrochage régional au plus proche de vous. Voici Régional Géographique. Chaque jour, on part en région retrouver un correspondant d'Europe 1. Aujourd'hui, direction la Franche-Comté. Bonjour Arthur Mbaché.
Presque la Franche-Comté. Bonjour Mathieu, salut tout le monde.
Ah,
salut.
Mince. Correspondant d'Europe 1 dans l'Est, chronique cet après-midi en forme de tuto pour ne pas se faire avoir par les fake news. Vous nous parlez, Arthur, d'une série de 4 photos, des images magnifiques, un bel arbre, une prairie vallonnée, une forêt. Tout ça pris à chaque saison de l'année.
Et avec ce commentaire qui circule sur Facebook, les 4 saisons, un enchantement franc-comtois. C'est vrai, c'est un joli paysage, magnifique, écrit un internaute qui y commente. Top du top, superbement beau, dit un autre. C'est vrai que c'est beau et, comme disait Chirac, c'est beau mais c'est loin. Beaucoup plus loin que la Franche-Comté. Parce que ce paysage n'est pas un enchantement franc-comtois, mais un enchantement slovaque. On n'est ni dans le Jura, mais à Zabokreki, au nord-est de Bratislava. C'est le site web de France 3 qui a mis les choses au clair il y a quelques jours.
Bon, Arthur, franchement, entre nous, il me semble qu'il y a eu des fake news plus graves, non?
Vous avez raison, ça reste une photo de paysage, c'est pas dramatique, mais ça nous offre la possibilité de rappeler comment ne pas se faire avoir, parce que les mécanismes sont les mêmes. Là, c'est un arbre et une prairie, mais tous les jours, vous avez sur le web, au milieu de vraies infos, des images de, par exemple, soi-disant manifs qui en fait sont des archives d'un autre mouvement social dans un autre pays à un autre moment, des images, il y a eu ça, de la mort d'un gilet jaune qui en fait n'existe pas, etc., etc., etc.
Mais comment savoir, alors comment ne pas tomber dans le panneau finalement?
Alors, nos confrères et amis, d'ailleurs je salue François, salut François du service factuel de l'AFP, c'est un ami,
François.
Ont concocté une sorte de mode d'emploi. En résumé, ce mode d'emploi de l'AFP factuel, c'est d'abord un, dans le doute, abstiens-toi de partager, même si c'est un petit doute, c'est plus prudent, ça évite que des fausses nouvelles continuent leur balade néfaste sur les réseaux. Deux, il faut lire les commentaires. Au milieu de tous les gens qui se font avoir, il y a parfois un internaute un peu clairvoyant qui s'interroge, voire qui propose un lien vers, par exemple, la photo originelle avec la date et le lieu. La Slovaquie, pourquoi pas. 3. Si le contenu douteux est un texte, alors dans ce cas-là, c'est pas bête de tout simplement le copier-coller sur un moteur de recherche. C'est possible qu'un site qu'on appelle de fact-checking ait déjà vérifié l'info, comme ça, vous le saurez. Et enfin, si l'info est une image, il y a ce qu'on appelle la recherche inversée. C'est un peu plus compliqué.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Normalement, en quelques minutes, vous devriez comprendre. En gros, vous recherchez sur le web les autres sites où il y a déjà cette image. Alors, vous avez Google Images qui propose ce service. Il y a aussi un autre site qui s'appelle TinEye, T-I-N-E-Y-E. Et c'est comme ça qu'une famille de singes censée être en train de fuir les incendies en Amazonie s'est révélée être une famille de singes, certes, mais dans un zoo en Thaïlande. Voilà. J'aurais terminé cette histoire par une déclaration. La Slovaquie, c'est sans doute très joli, mais paysage franc-comtois, je vous aime.
Paysage franc-comtois, je vous aime, ça sonne comme une chanson de Michel Sardou. Merveilleux, Arthur Mbaché.
Ma nouvelle carrière est lancée.
Peut-être, probablement, une reconversion. Merci à vous, Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. Maintenant, on va parler d'un autre film, celui qui arrive. Alors là, dans le...
là, Nicolas Bedos, oui, vous avez dans une pression de Mathieu Noël.
Oui, mais surtout dans l'échelle de la jalousie que je nourris vis-à-vis de Nicolas. C'est-à-dire s'il voulait m'asséner le coup de grâce, c'est-à-dire que c'est le jour où j'ai appris qu'il allait réaliser le troisième OSS. Alors,
mais
mon salaud.
Tu sais, j'ai construit ma carrière en fonction
j'ai bien l'impression, tu as vu que Stéphane OSS, il s'est dit tiens, je vais lui mettre un petit coup dans la nuque.
Je suis en réunion et je fais oh, ouais, ça va vraiment le faire.
En tout cas, c'est réussi. C'est pleinement réussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment vous êtes retrouvé aux manettes du troisième OSS, le film que tout le monde voulait réaliser, j'imagine?
Il y a eu un appel d'offres.
Il y avait Twig, il y avait.
On était tous là. Quand je dis tous, c'est vraiment. Il y avait Cadmérade, il y avait tout le monde. Je me souviens, j'ai marché à un moment donné sur Mathieu Bourboulon. Et puis finalement, voilà, on a tiré la courte paille. Puis c'est moi qui ai. Ça a été une envie commune, mais je parle à leur place, de l'acteur principal et des producteurs, ainsi que le scénariste Jean-François Alain, qui se sont dit peut-être que je pouvais être sensible à cet humour-là, et puis aussi à cette ambition esthétique-là. Voilà, mm-hmm. Parce que c'est des vrais beaux films de cinéma, OSS 117, les deux premiers de Michel Hazanavicius. Et donc, moi, voilà, bon, je sais pas, vous avez dû remarquer que j'aime bien la photographie.
Ah oui, mais quand je disais que j'étais jaloux, c'est un très bon choix. Je suis juste jaloux personnellement. C'est un très bon choix,
oui,
Nicolas Bedos,
pour
réaliser ce film. Alerte rouge en Afrique noire, c'est le titre définitif, c'est bon, c'est ça?
Oui.
C'est bien parti. Vous en êtes à quel stade de la production pour les fans? Vous savez, les fans sont très impatients.
On est à la fin de la prépa.
Ouais.
Je vais tourner dans 2 semaines. Et c'est intensif, c'est passionné, c'est drôle. Pierre Ninet et Jean sont réjouissants à regarder jouer ensemble. Déjà, on a fait des lectures, on essaie des costumes, on s'amuse comme des gosses.
Et est-ce que dans l'esprit, vous allez aller aussi loin que les premiers? Parce que je me souviens qu'il y a eu un moment où je crois d'ailleurs, je ne sais pas si c'était bien relayé par la presse, mais Jean Dujardin disait que c'était compliqué de refaire un humour aussi... évidemment, on se moque du racisme et tout ça, mais il y a quand même des répliques qui sont assez chocs. Et on était dans un monde un peu trop politiquement correct, peut-être pour le 3. À une époque, ce qui se disait. Vous y allez à fond.
Ah non, à fond. On ne se dit pas « Ah, allez, il faut choquer tout le monde, là, sur cette réplique. »
Mais on ne se bride pas.
On ne se bride pas. Non, surtout pas, parce que là, pour le coup, ça serait une forme de trahison de l'ADN des premiers OSS. En tout cas, ça a été moi. Et puis, j'ai travaillé sur l'adaptation avec Jean-François pendant des mois, tout en respectant totalement l'absurdité, la folie, le charme de ces dialogues. Mais j'ai essayé de mettre un tout petit peu de choses personnelles également.
Eva ?
Est-ce qu'il y aura une chanson d'Alain Souchon ?
Ça, c'est peu probable.
Désolé. Doria, vous jouez pas dans le prochain OSS ?
C'est une chanson de quelqu'un qui vous surprendra qui est plus en rapport. Vous pourriez trouver, si vous réfléchissiez 2 secondes, une chanson de quelqu'un qui est plus en rapport
Michel
avec.
Michel Sardou ? Michel
c'est
Sardou ?
C'est intéressant.
Ça pourrait être pas mal. Doria, vous jouez dans OSS ?
Non, malheureusement.
Comment ça ? On peut encore négocier.
Non, je crois que c'est trop tard là.
J'ai lu qu'en janvier, vous allez démarrer la réalisation de votre premier court-métrage.
Ouais.
Ça parle de quoi ?
En fait, je fais ça dans le cadre d'un truc qui s'appelle Talent Cannes à Dami. C'est la Dami qui fait une collection de courts-métrages pour le Festival de Cannes. Donc, ils nous donnent des thèmes. Et le thème, cette année, c'est le lieu de tournage. Ils ont fait un partenariat avec l'île de La Réunion.
Voilà. Sympa comme tournage.
Ouais, je suis tombée la bonne année l'an dernier. Ils ont tourné en Belgique.
On salue nos amis belges qui nous écoutent.
Non, mais j'adore la Belgique en plus. Mais bon, c'est sûr que c'est plus excitant d'aller tourner dans les paysages différents. Et voilà, c'est une comédie. Moi, c'est l'histoire d'une équipe de télé qui va là-bas pour faire un petit reportage sur un truc qui s'appelle La Diagonale des Fous.
Oui, la course magnifique.
Ah, vous connaissez
ouais, c'est la course qui traverse tous les grands cirques de La Réunion.
Rassurez-nous, Nicolas Bedos ne joue pas un coureur de fond dans cette.
Ah, écoutez,
tout est possible.
On ne sait pas, tout est possible.
Tout est possible avec des trucages alors. On est ravis d'accueillir Doria Tillier et Nicolas Bedos qui passent un très bon moment en notre compagnie. Un mot pour résumer ce que vous inspire notre émission ?
Presque tout.
Oui.
Le sommeil et l'ennui.
Bien, alors Nicolas, je sais que vous êtes très attaché à Doria, mais l'heure est venue de vous présenter une femme exceptionnelle. Voici Eva Rock.
J'ai aucune envie d'aller là-dedans. Hein ? Franchement, je m'y ferais chier.
Non, alors non, mais il n'y a pas question de ça, Nicolas. C'est simplement l'heure du quiz. L'heure où normalement...
Je suis désolée, je suis pour rien.
L'heure où normalement, l'invité doit affronter Eva dans un duel intellectuel de haut vol, mais pas aujourd'hui, car aujourd'hui, je vais faire plus vicieux, semer la discorde au sein d'un couple. Nicolas Bedos, Doria Tillier, votre love story n'a que trop duré. Il est temps de vous déchirer et de vous foutre sur la gueule. Voici le premier quiz entre l'invité et l'invité. Votre film La Belle Époque raconte l'histoire d'un sexagénaire qui veut revivre la rencontre amoureuse qu'il a vécue 40 ans auparavant. Faisons donc un vrai faux sur l'amour avec un grand A. Doria Tillier, le papillon migrateur appelé Monarque est non seulement monogame, mais en plus s'éloigne quand une femelle s'approche trop près de lui. Vrai ou faux ?
Vrai.
Vous avez répondu, mais tellement rapidement qu'on sent que vous connaissez bien
le papillon monarque.
Eh bien, c'est faux. C'est une toute autre ambiance, puisque le mâle force la femelle à avoir des relations sexuelles. Puis, une fois terminé, il colmate l'orifice de la femelle avec des aliments. Chic.
Oh,
chic.
Mais c'est horrible, votre histoire.
Très belle histoire. La nature est merveilleuse. Nicolas Bedos. C'est dans un épisode de Star Trek qu'on a vu pour la première fois à la télé américaine un baiser entre un blanc et une noire. Vrai ou faux ?
Oui, vrai.
Alors là, ça venait de plus loin. On sent que Nicolas hésitait. Et pourtant, oui, c'est vrai.
Ouais.
1968.
Je me souviens de ça.
Le Cap. Mais 1968. Ah, vous
non,
vous souvenez,
je me souviens dans un documentaire.
Ah,
tu vois,
oui. J'ai eu peur. Le capitaine Kirk embrasse à pleine bouche le lieutenant Uhura. La chaîne NBC ne voulait pas de ce baiser. Et l'équipe de production a tourné cette scène en étant persuadée que la série serait arrêtée avant la diffusion. Ce qui n'a pas été le cas. Doria Tillier, Nicolas Bedos, une question. Vous répondez ensemble. En 2002, un étudiant de l'université d'Utah a sorti le grand jeu pour la Saint-Valentin. Qu'a-t-il fait ? 3 propositions. 1. Il a volé des pierres venant de la Lune pour faire l'amour dessus avec sa copine. 2. Bah Eva, vous aimeriez connaître un romantisme de ce niveau-là.
Ouais, sans pierre de lune,
ça me ferait déjà plaisir. Ouais, oui. 2. Il a demandé à tous les ex de sa copine d'écrire un petit mot sur une carte pour dire que c'était lui le meilleur. Ou 3. Oh. Il a tourné dans un film sans lui dire avec un t-shirt où le prénom de son amoureuse était inscrit.
Oh, moi, je pense plutôt que c'est la 3. C'est ce qui me semble.
Vous dites la 3 tous les deux ?
Ouais.
Vous avez faux tous les deux ! Ils ont fait l'amour sur des pierres de lune ! Stagiaire à la NASA, il a volé des échantillons lunaires avec des complices. Avec Rebecca, ils ont fait l'amour dessus.
On dirait un poème surréaliste.
Oui, c'est un peu ça, c'est un peu Aragon. Ils ont finalement été arrêtés par le FBI, les pierres ont été retrouvées, mais contaminées, elles n'avaient plus de valeur scientifique. Nicolas Bedos, depuis le milieu du 19e siècle, on dit « mariage pluvieux, mariage heureux
».
Parce que cela vient d'une chanson grivoise où je cite « la mariée se doit d'être humide ». Vrai ou faux ?
Oh, Mathieu. Oh, c'est horrible.
Non.
Vous êtes sûr ?
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça, il a raison. Il n'a pas été déstabilisé par mon machiavélisme. À l'origine, c'était mariage plus vieux, sous-entendu. Il ne faut pas se marier trop jeune pour mieux apprécier son histoire amoureuse. Doria Tillier, Roy Sullivan a été touché 7 fois par la foudre, mais il a survécu. Puis, coup de foudre avec une femme, chagrin d'amour, il s'est suicidé. Vrai ou faux ?
7 fois, ça fait beaucoup quand même. Mais peut-être que c'était son métier, un truc genre, voilà. Alors, j'ai envie de dire vrai, mais j'ai tort à chaque fois. Mais je dis quand même vrai.
Vous avez... C'est vrai ouais. C'est vrai. Un point pour Doria Tillier. Selon le livre des records, il a été l'homme le plus foudroyé au monde. Garde forestier, il est mort à 71 ans. Son dernier amour en avait 30. Chagrin d'amour, bam. Fin de l'histoire.
Terrible. Triste.
C'est Nicolas Bedos qui remporte le quiz malgré son intoxication alimentaire. Comme quoi, il a su surmonter l'épreuve. C'est magnifique. Ouais. Expert sport et loisirs, son dernier sujet sur des gens qui se plottaient en forêt déguisés en zombies avait beaucoup plu à notre invité, l'auteur Maxime Chattam, qui avait même trouvé un nom à cette pratique novatrice.
Il fait nuit noire, et tout à coup, des hordes de zombies qui vous tombent dessus.
Oui, enfin, j'ai l'impression que c'est un chabit horrifique, en fait.
C'est quoi ?
Un chabit horrifique.
Après le succès du chabit horrifique, Jérôme Lacroix revient aujourd'hui avec non pas la nouvelle tendance du chabit au bois de Boulogne.
Non.
J'ai cru d'abord de la musique. Non, c'est au Brésil, au vrai Brésil, que vous nous entraînez cet après-midi, Jérôminho. Ah oui ?
Ça va bien.
Ah oui, ça va bien, hein, l'accent. Va bien. C'est original en plus.
Nous sommes le 22 octobre dernier et c'est bien un match singulier que commentent les journalistes brésiliens de foot. C'est le championnat du Brésil, première division. L'équipe de Salvador de Bahia reçoit celle de Ceará. Alors il n'y a aucun titre en jeu, c'est du championnat, un match presque anodin. En fait, personne n'oubliera jamais la rencontre de ce jour-là. Les joueurs de Bahia portent sur eux la camisa manchada de óleo. J'espère que je prononce bien, le maillot taché de pétrole. Alors, je vous le montre, ce maillot, si vous êtes avec nous sur Europe1.fr. Le voici, vous voyez,
ah, bien taché,
couleurs traditionnelles du club qui sont le rouge et le bleu. Et puis, au niveau du ventre, et puis des hanches qui remontent jusque sous les épaules, des fausses taches de pétrole.
Alors,
l'initiative de ce club, ce maillot taché de pétrole, a eu un impact considérable parce que, oui, c'est bien une catastrophe écologique que relatent depuis des semaines les médias à grands coups de musique anxiogène. Une marée noire frappe les côtes brésiliennes depuis 3 mois, 200 plages souillées, 2000 km de côte. Et on approche de la haute saison touristique à là-bas avec déjà de premières annulations. Des kilos d'hydrocarbures visqueux qui viennent s'amonceler sur les plages. Les habitants, ils doivent s'employer eux-mêmes avec des moyens dérisoires. Le pétrole est ramassé à main nue, y compris par des enfants qui ont peu conscience du danger. D'ailleurs, vous avez peut-être aperçu récemment la photo d'un enfant semblant émerger de cette mer masse infâme. Elle est vraiment devenue un symbole, cette photo.
Et l'état de Bahia et ses vastes plages où réside donc cette équipe de foot est particulièrement touché. C'est une catastrophe pour l'économie locale.
Et du coup, le président de ce club, eh ben, il est invité à présenter ses maillots sur les plateaux télé. Il s'appelle Guilherme Belintani et voilà son message. C'est votre problème, c'est notre problème. Qui a déversé ce pétrole ? Qui va payer pour une telle irresponsabilité ? Bahia, c'est toi, c'est nous tous. Il dit, c'est la façon dont nous représentons l'amour, l'attachement, le câlin, le sacré, la justice. Un peuple qui respire le même air et qui dépend de la même nature pour exister. Pour survivre. Ces maillots faussement tachés de pétrole, ils sont mis en vente aux enchères sur Internet. Les fonds seront reversés au groupe chargé de nettoyer les plages et ils ont besoin d'argent.
Et il faut préciser que ce club de foot de Bahia possède une longue tradition de militantisme.
Oui, des campagnes contre l'intolérance religieuse, les harcèlements faits aux femmes, l'homophobie, le cancer du sein, du cerveau, campagne contre le racisme, mais aussi pour la défense des indigènes d'Amazonie menacés par la déforestation, avec à chaque fois des initiatives concrètes. C'est ça le truc, des colloques, des récoltes de fonds. Bah parce que oui, le foot, c'est aussi être militant. Il y a des clubs qui agissent concrètement et pas les plus fortunés, loin de là. Alors j'ai choisi quelques exemples. Les joueurs de Montpellier en maillot rose pour Octobre Rose, dépistage du cancer du sein, Montpellier D1 française. On descend les étages de la hiérarchie du foot. Ce club de 3e division polonaise, Torun, un maillot unique jaune avec des alvéoles pour alerter sur la disparition des abeilles. Et puis un que j'adore, le super top méga classe maillot des joueurs d'Altrincham, 6e division anglaise. C'est dans les environs de Manchester, un maillot bariolé, arc-en-ciel, haut en couleur, pour dénoncer l'homophobie. Tout ça pour la récolte de fonds pour défendre les grandes causes. Et puis sur l'écologie, alors il faut citer les Forest Green Rovers, 4e division anglaise, élu par l'ONU, club le plus écolo du monde.
Bah leur nom s'y prête.
Ouais, l'eau d'arrosage pour la pelouse, c'est de l'eau recyclée. Cuisine végane pour les joueurs. Bière bio pour les supporters. Et 170 panneaux solaires sur le toit du stade. Voilà, les clubs, on sait qu'ils ont des rapports privilégiés avec les supporters. Ils peuvent avoir de gros impacts. Et voilà comment ils influent eux aussi sur les évolutions sociétales.
Comment vous avez choisi les chansons? Parce que les chansons de Nougaro, les belles chansons de Nougaro,
elles sont toutes très dures.
Est-ce que vous les avez choisies par goût ou par celle que vous pouviez chanter?
Non, non, non. D'abord par goût. Je fais toujours les choses d'abord par goût. Et d'abord par désir. Il y en a tellement que j'aurais voulu mettre sur cet album et qu'on n'a pas pu mettre parce qu'il fallait se restreindre. Mais c'est vrai aussi qu'au départ, je me disais « Oh là là, mais il y a plein de chansons qui sont vraiment très masculines, c'est vraiment un homme qui parle, et pas n'importe quel homme, Claude lui-même. Donc ça, je ne peux pas chanter, je ne peux pas me permettre, etc. »
Pardon, j'y pense, vous n'avez pas chanté « Sous mon balcon, je suis sous mon balcon ». Ça aurait été, vous auriez pu mettre en bonus track.
Oui, oui, mais par exemple, je n'ai pas chanté, mais ce que j'ai décidé entre-temps, c'est peut-être dans le spectacle de mettre même des chansons masculines, comme « Une petite fille », ou comme, je ne sais pas... Alors, Splouch, c'est pas spécialement masculin, mais quand même, à un moment, il dit mon garçon. Donc, mais c'est pas grave.
Il y aura des surprises sur scène.
Oui, oui, il y aura des choses comme ça.
Il y a une tournée qui arrive, Eva.
Il y a une tournée à partir du printemps 2020. On va donner quelques dates au fur et à mesure de l'émission. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on redécouvre des chansons qui sont moins connues du répertoire de Nougaro. Oui. Et moi, j'en ai découvert alors que j'adore Nougaro depuis de longues années. Mais Tendre, par exemple, qui est une chanson absolument magnifique.
On l'a oublié.
Moi,
je la connais. Sur un thème de Toots Thielemans.
Exactement. Sublimissime.
Ouais. On continue de parler de ce très bel album. Mais il est temps d'entrer, les amis, dans le vif de la compétition avec la BFF d'Eva Rock. Toutes les deux, elles passent leur journée à glousser derrière leur écran d'ordinateur. Franchement, mesdames, tâchez au moins d'être un peu discrètes. Quand vous commandez vos sextoys sur Amazon, tâchez au moins d'élaborer un langage codé un peu plus codé.
Anne, on recevra nos plantes mardi. Il y a 3 petites fougères, un grand yucca pour mettre derrière toi et un petit bonsaï. Enfin, je crois, je sais plus.
Oui, Anne Le Gall, entre deux commandes de grand yucca et de petits bonsaïs, peut-être auriez-vous l'obligeance de nous livrer votre chronique sur ce nouveau parc naturel qui vient d'être créé en France. Et c'est pas tous les jours.
Effectivement.
Je pleure de rire, c'est vrai. Allons écouter la musique de la nature, la musique des arbres. On va partir dans les parcs naturels. On en comptait 10 jusqu'ici en France. Vous connaissez au moins deux noms, le parc de la Vanoise,
qui est
le plus ancien. Voilà. Alors Vanoise, c'est 1963. Après, il y a eu le Mercantour, les Cévennes, parc des Pyrénées. Et demain va donc naître le parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne. Il faut imaginer donc un paradis naturel de 240 000 hectares, à cheval sur le département des Côtes d'Or et de Haute-Marne. Donc c'est une zone de forêts, de frênes, de hêtres, parcourue par 7000 km de rivières. C'est un site assez peu connu du grand public et pourtant, ces forêts, à 80%, existaient déjà au moment de la Révolution française.
Et ça arrive souvent qu'un territoire soit classé comme ça, parc naturel?
Eh bien non, c'est un petit événement quand même, puisque le dernier parc qui a été créé, c'est celui des Calanques en 2012, il y a 7 ans. Et pour créer un parc, il faut quand même 12 ans de démarche. En tout cas, c'est ce qu'il a fallu pour celui-ci. Donc, territoire qui a été choisi après enquête publique, après avis du Conseil d'État. Il a été choisi en raison de sa biodiversité exceptionnelle. Donc, ce sont des forêts de feuillus très anciens qu'on peut parcourir grâce à 2000 km de sentiers de randonnée. Et du côté de la faune, eh bien on trouve dans ce parc des cerfs, des sangliers, des chevreuils et des animaux plus rares, comme par exemple les cigognes noires ou alors des chats sauvages, des chats forestiers. Il y a aussi des chouettes et des papillons très, très particuliers. C'est tellement exceptionnel qu'un centre de recherche sur la forêt va d'ailleurs être créé dans ce parc naturel et ce sera unique en Europe.
Mais alors, à part faire de grandes balades, de belles randonnées avec les enfants où on bouffe des babybelles et où les enfants crient « Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» À quoi ça sert un parc naturel?
À quoi ça sert sert? Ça sert à protéger la biodiversité pour les générations futures. Le parc le plus ancien du monde date de 1872. C'est Yellowstone aux États-Unis. On est bien content, 5-6 générations plus tard, d'en profiter, tant sur le plan touristique que scientifique. Donc là, en fait,
quand Donald Trump réfléchit, hein, il va peut-être faire un puits de pétrole là-bas. Il hésite.
Peut-être brûler une partie. Pourvu que non, on croise les doigts. Donc cet espace de parc naturel en France sera désormais géré par un établissement public. Et donc, avec les collectivités locales, il va y avoir des règles établies pour la protection de ce parc. Donc, par exemple, on va avoir des règles pour la chasse, des règles pour la coupe du bois, qui sera d'ailleurs réduite de 8%. Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, puisque les forestiers, les chasseurs, les agriculteurs, parfois, craignent que la zone devienne surprotégée. Mais pour la région, en tout cas, c'est un beau label touristique. On estime que ce parc accueillera chaque année 100 000 visiteurs et ça profitera donc aux 127 communes qui sont inscrites sur ce territoire.
Merci Anne Le Gall. Nathalie Dessay, vous êtes plutôt urbaine ou vous aimez la campagne? Je crois que vous habitez une maison, vous êtes dans la nature, non?
Disons que j'ai un jardin.
Mais c'est la nature.
C'est comme ça. Non, moi j'aime la mer.
Ah, c'est la mer, votre truc. Oui. Et bien, la prochaine fois, Anne Le Gall, vous ferez un sujet sur les calanques de Cassis,
voilà,
plutôt.
Je ferai un parc naturel.
Mais je suis ravie
marin.
De savoir qu'il y a un parc naturel de plus en France.
De belles balades en perspective.
Et il paraît que vous aimez bien avoir vu sur la nature et vous laisser réveiller par le soleil aussi. Vous n'avez pas de volet. J'ai lu ça dans une interview à Paris Match, non?
Oui, c'est vrai. Si, c'est vrai.
C'est vrai. Vous l'avez confié à Paris Match il y a quelques années.
Et si c'est possible avec la vue sur la mer, c'est encore mieux.
Encore mieux.
François Baroin, j'ai toujours apprécié, je vais vous le dire, votre sincérité. Même à l'époque où dans les conseils stratégiques de l'UMP, vous étiez plus impitoyable avec vos adversaires politiques et notamment Ségolène Royal que Bernard Blier.
Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque, on la passe à l'acide, on la découpe au laser, on la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Dominique.
Mais nonobstant cette sympathie que vous m'inspirez, je me dois à présent de vous introduire à la pensée marxiste, voire amoniste, pire, d'Anissé Mbida, selon qui, tenez-vous bien François Baroin, on pourrait travailler moins pour gagner plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anissé?
C'est une info qui fait beaucoup de bruit actuellement. Microsoft a testé la semaine de 4 jours. Donc, un petit rappel des faits, ils ont fermé l'entreprise le vendredi, les employés étaient toujours payés, ils ont limité les réunions à 30 minutes, 5 personnes maximum. Tout ça, ils ont testé tout ça pendant un mois et ils viennent de rendre les résultats et c'est assez sidérant parce qu'il y a eu 40% de productivité en plus, donc les ventes par employé ont augmenté de 40%, la consommation énergétique a baissé énormément, 23%, et surtout ils ont consommé énormément moins de papier, moins 60% de consommation de papier, donc évidemment tout le monde est heureux, 90% de satisfaction, tout le monde en redemande.
Oui, attendez, j'aimerais pas qu'on perde François Baroin qui quitte le studio, il y a quand même
tout le monde s'en bat,
il y a peut-être quand même un bémol. Dans tout ça.
On devrait instaurer la semaine de 4 jours partout. Sauf que, évidemment, il y a un gros bémol, c'est que ça se passe au Japon.
Ils ont fait 20 heures sur 24.
Voilà, on doit rappeler que le Japon est un pays qui manque énormément de main-d'œuvre. Donc, ils incitent les entreprises, exigent quasiment de leurs employés de faire des heures supplémentaires, 80 heures supplémentaires par mois. Sinon, grosso modo, on est mal vu comme employé. Donc, il y a énormément. Des gens se tuent au travail. C'est une vraie réalité là-bas. Donc, il y a des mesures du gouvernement actuellement pour essayer de régler tout ça, de limiter les heures supplémentaires et surtout d'apporter un peu plus de flexibilité au travail, de faire en sorte que les gens travaillent des heures décalées pour éviter les pics de pollution, les pics dans les transports en commun. Donc, cette initiative de Microsoft s'inscrit dans ce cadre-là. Parce que le Japon voudrait favoriser la natalité en disant si les employés passent plus de temps chez eux, ils sont beaucoup plus flexibles, peut-être qu'ils feront plus d'enfants parce que le Japon a un énorme problème de natalité, etc.
C'est bien vu.
Donc, et surtout, on oublie que le Japon est beaucoup moins, mais alors beaucoup moins productif que la France.
C'est fou parce que comme le cliché, on se dirait qu'en France, on est moins productif qu'au Japon.
Au dernier classement OCDE, la France est 7e mondiale, alors que le Japon est 20e mondiale. Donc évidemment, quand on dit que le Japon, enfin une entreprise au Japon a augmenté sa productivité de 40%, on reste encore très 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 loin de ce que l'on fait en France.
François Baroin a retrouvé quelques couleurs avec ses bémols, mais ce n'est pas la première expérience du genre. Anissé, il y a eu plusieurs expériences de ce type dans le monde.
Oui, notamment une très intéressante qui a eu en Nouvelle-Zélande avec une entreprise qui gère les successions. Alors, Nouvelle-Zélande, c'est le 21e, donc on est très très loin de la France. Eux, ils ont testé ce système pendant 2 mois et ils l'ont pérennisé depuis 2018. Ça fait plus d'un an qu'ils travaillent comme ça et ils sont ravis, ils sont extrêmement contents. Mais plus globalement, on s'est rendu compte que dans le monde entier, il y a énormément d'études qui ont été faites et qui montrent qu'il vaut mieux rémunérer les gens sur leur productivité plutôt que sur la durée du temps de travail. C'est pas parce qu'on est présent que l'on travaille. Donc en ce moment, c'est un vrai débat qui a lieu au Royaume-Uni, parce qu'on a eu les 35 heures nous en France, hein, mais eux, ils militent en ce moment pour la semaine de 4 jours, 32 heures. C'est le parti travailliste britannique qui le pousse avec leur lot de vie, c'est travailler pour vivre et non vivre pour travailler.
C'est beau.
Et il y a énormément de débats en ce moment, et ça rappelle un peu notre
ça
débat sur les 35 heures.
Non, ça fait rire parce que ça rappelle quand même de Funès dans La folie des grandeurs. Il faut vivre pour manger, non pas manger pour vivre.
Moi, je pensais que ça rappelait plutôt notre débat sur les 35 heures.
Voilà, excusez-moi, je ramène à un niveau qui est à peu près le mien. Et donc...
Les 35 heures en France, c'est quand même depuis 2002. Hein. Les débats,
je ne suis pas travailliste. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher cette série inutile.
Alors, souvent, à l'issue d'un sujet économique, je me tourne vers l'invité, je lui demande ce qu'il en a pensé. Je suis souvent déçu de la réponse, sachant qu'une fois sur deux, l'invité a arrêté l'économie en terminale. Là, c'est mon jour, un ancien ministre de l'économie. Alors là, on est bien. François Baroin. La semaine de 4 jours qui booste la productivité, pourquoi ça marcherait au Japon et pas chez nous?
Le Japon est en atonie économique depuis plus de 20 ans. Ils n'arrivent pas. Ils ont des taux bas, ils sont en déflation, ils ont des salaires qui ont baissé, ils ont un problème de natalité, ils ont un problème de concentration économique. Vous avez, sur les trois grandes entreprises de mémoire, hein, Mitsubishi, Toyota et Nissan, plus de 25%, je crois, de la main-d'œuvre qui travaille dans l'industrie. Donc effectivement, le choix, c'est d'essayer de faire de la relance par de la dépense publique, de faire de la relance de la compétitivité et puis de refaire de la relance. Alors là, l'originalité dans ce que vous avez dit, c'est d'avoir du temps libre pour pouvoir faire des enfants.
voilà. Ça
m'interpelle sur le plan économique et on va essayer de mettre 2-3 prix Nobel français là-dessus. J'aimerais comprendre le lien de la création de richesse et de valeur. Je vois la valeur, mais c'est la richesse.
C'est ça d'avoir un ancien ministre de l'économie avec nous en studio. Hein. Ça, c'est des réponses précises. Anissa Mida, vous vouliez ajouter quelque chose?
Il y a aussi une autre couche qui s'est ajoutée, c'est celle de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, où pour pas mal de tâches, le travail a énormément évolué et pas mal de tâches peuvent être aujourd'hui automatisées. C'est un des grands axes du Japon également. Pour justement pallier au problème de manœuvre.
Ils essayent depuis 25 ans des relances économiques, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché.
Voilà, ils vont essayer de faire des enfants, c'est déjà ça. Olivier, déjà pour nous mettre l'eau à la bouche, vous avez fini comment samedi soir?
Des œufs farcis et enroulés, confits dans une sauce au vin rouge et aux échalotes.
Encore une belle soirée, Olivier.
Ouais, on n'est pas loin de la vérité.
Je sais,
c'est vrai. Il n'y a pas d'échalotes.
Tu portais pas. Qu'est-ce que vous nous mijotez ce soir?
Eh bien, un plat assez bluffant, simplissime et pas cher comme d'habitude, avec une magic touch dont je vais vous parler dans un instant. Vous cuisinez, Jamie?
J'adore.
Ouais. Eh bien, alors je vais vous proposer de manger. Alors, je ne sais pas si vous avez, comme beaucoup de gens probablement autour de cette table, un mauvais souvenir des betteraves.
Ah non, eh ben non, moi j'adore les betteraves.
Moi j'ai un mauvais souvenir d'enfance, maintenant j'adore ça. Mais
alors parce que les betteraves, c'était des betteraves mal cuites qui avaient un goût terreux à la cantine, terrible. Alors qu'en réalité, quand on achète des betteraves fraîches et crues au marché et qu'on les cuit soi-même, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc on va acheter des betteraves. Il y a plusieurs couleurs de betteraves qu'on trouve d'ailleurs. On trouve des jaunes, on trouve des rouges, on trouve des blanches. L'idée, c'est de les cuire très simplement au four. On les emballe dans une feuille de papier aluminium, on les met dans un four à 170 degrés et on les oublie pendant 45 minutes. On vérifie avec une pointe de couteau et à partir du moment où elle rentre sans problème, ça veut dire que c'est cuit. On va trancher nos betteraves pour faire un carpaccio. Une petite huile, alors pas d'huile d'olive, moi j'aime bien l'huile de noisette ou une huile de sésame grillée par exemple, un petit peu de fleur de sel et on va faire tomber là-dessus une neige de chèvre frais. Alors, il va neiger du chèvre frais. Comment est-ce possible?
Bon, c'est vraiment un monde merveilleux avec vous, Olivier.
Vous achetez
un pays où le fromage de chèvre
et d'ailleurs, ça, c'est hyper spectaculaire et c'est succès garanti à la maison. Vous achetez un fromage de chèvre frais, vous le mettez au congélateur pendant 2-3 heures. Quand il est bien dur, avec une râpe à fromage ou avec ce qu'on appelle une microplane en cuisine, c'est une râpe à fromage avec des tout petits trous, et vous râpez votre fromage comme ça, il va neiger du chèvre frais sur votre carpaccio de betterave.
Il est à deux doigts de l'orgasme. Il nous raconte dans ses yeux une lueur s'allume. C'est magnifique, Olivier.
Et cette neige de fromage frais, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. C'est très spectaculaire.
Oui, vous pouvez même le faire spécialement pour Eva Rock, qui est intolérante au fromage.
Ouais.
Merci, Olivier Pouls. Ça vous a donné faim, Jamy?
Ah, j'ai l'eau à la bouche. Ce qui est génial, c'est que Olivier fait les gestes. Là.
Ah, oui.
C'est terrible. Ouais, il manquait juste les ingrédients.
Dans le camion.
Bravo. Prie, Olivier.
Bravo.
Merci, Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Nicolas Carreau, vous nous parlez ce matin d'un auteur américain dont le nom est encore inconnu chez nous.
Un écrivain un peu particulier, il s'appelle Christophe Hermelin, si vous préférez. Il est américain, new-yorkais, il a une trentaine d'années, c'est un écrivain mais qui n'a jamais publié, en tout cas pas comme on l'entend. Un jour, il s'installe dans Central Park, sur un banc, avec une machine à écrire et il accroche un petit panneau à côté de lui pour indiquer aux promeneurs qu'il peut leur écrire une histoire. Alors vous donnez quelques détails sur votre vie, vous n'êtes pas obligé, et puis il vous écrit une nouvelle sur une demi-feuille tapée à la machine et donc unique, le tarif est libre.
Alors tarif libre, mais si on veut une histoire, il faut aller à New York.
Et non, puisque Hermeline a modernisé son concept, on peut lui commander une histoire en ligne. C'est ce que j'ai fait il y a longtemps. Il faut plusieurs mois pour recevoir son histoire, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de demandes.
Vous avez donné quoi comme indication ?
Alors, vous allez vous foutre de moi, mais
c'est possible, allez-y.
Je voulais l'histoire d'un type qui est fan des écrivains américains Scott Fitzgerald, Hemingway et David Foster Wallace. J'ai attendu, attendu, et j'ai donc reçu une jolie petite enveloppe avec dedans une demi-feuille tapée à la machine et une nouvelle. Et il a écrit une histoire pour chacun, donc c'est forcément un peu long. J'ai attendu, je crois, 6 mois pour avoir mon histoire. Mais pour lui, c'est une manière d'entretenir une relation très particulière avec les lecteurs, comme les plus grands auteurs, finalement. C'est ce qu'il m'a expliqué quand je l'ai contacté, oui, à New York.
C'est quelque chose que beaucoup d'écrivains doivent attendre longtemps. Souvent, quand vous lisez un écrivain que vous aimez, vous pensez « Oh, il l'a écrit juste pour moi ». C'est comme si vous aviez une connexion avec eux. Moi, j'ai triché un peu. Maintenant, j'écris pour une seule personne, juste pour vous. C'est un super moyen de créer une connexion rapide avec quelqu'un. Et aussi, ce qui est génial pour moi, c'est que quand je fais mon café ou que je me balade dans un parc, je réfléchis à l'une de ces commandes qu'on m'a faites. C'est comme si j'avais une conversation avec eux au-delà des frontières. Parce que vous savez, j'ai des commandes d'Italie, de Singapour, de Thaïlande et de partout dans le monde. Et donc, je me sens vraiment chanceux pour ça.
Alors, Nicolas Caro, c'est déjà le concept est génial, mais deux questions se posent importantes. La première, avec quel argent avez-vous payé ce livre ? Est-ce que c'était avec vos deniers personnels ou l'argent d'Europe 1 ? Et deuxième question,
j'ai donné 25 euros.
25 euros ? Ouais. C'est pas cher, mais c'est
pour les nouvelles. Je me suis dit, c'est le prix d'un livre.
Quelle radance, Nicolas Caro.
Voilà,
oui, c'est le prix d'un livre, c'est vrai, c'est pas faux. Mais là, c'est un livre unique quand même, donc vous auriez pu faire un petit geste. Bon, bref.
C'est vrai. Et j'ai surtout, pas beaucoup d'argent, vous savez, je suis journaliste.
Il va se plaindre maintenant. Que raconte votre histoire ?
Alors, c'est l'histoire d'un type qui habite à Paris et qui est fan de Fitzgerald, Hemingway et Foster Wallace, ça c'est bon. Il découvre un secret, une astuce pour rencontrer des écrivains morts. Il faut avaler la première page d'une édition originale de l'auteur en question. Il faut chercher, mais ça se trouve. Et ensuite, il faut boire une bouteille de bourbon cul sec. Ça, c'est déjà plus compliqué. Je sais même pas si on y survit. C'est peut-être ça le truc d'ailleurs. Enfin, c'est de la littérature. Hein. Et donc, ça marche. Le type se retrouve dans un bar avec ces trois écrivains. La suite, je ne vous la donne pas. C'est l'intérêt de ce concept. C'est un truc très égoïste aussi. À chacun son histoire. Et pour trouver Christophe Hermelin, vous tapez sur Google CD Hermelin, H-E-R-M-E-L-I-N. Mais il y a beaucoup d'attentes, je peux vous le dire.
Nathalie Dessay, ça a l'air de vous intéresser, ce
oui,
concept-là.
Mais est-ce que vous savez où il est dans Central Park ?
Parce que Nathalie va aller directement.
Bah oui, moi je vais y aller.
Je ne sais pas exactement.
Mais c'est toujours le même endroit ou il change ?
J'imagine qu'il change, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas.
Pour l'heure, je me tourne vers notre invité d'honneur, François Baroin, président de l'Association des maires de France. Il a été un des plus jeunes députés, un des plus jeunes ministres. Résultat, il est toujours aussi jeune. En plus, il est beau et il a la voix de Barry White. Bref, François Baroin, vous agace-t-il autant que moi ? On a promené notre micro dans les villes et villages de France et... Ah oui, non, pardon, on me signale qu'on n'avait pas le budget pour aller dans les villes et villages de France et pour franchir le périph'. Donc c'est juste un micro-trottoir dans le 15e arrondissement, en fait.
François Baroin, c'est un homme politique, maire de Troyes, dont le papa était un grand politicien.
C'est un ancien jeune homme de la politique.
Ah oui, on connaît François Baroin. Eh ben, c'est le président des LR. Ah non, c'est pas lui, merde, pardon. Non, c'est l'autre, là, le gros brun. Je m'enregistrerai pas, là.
Ah, il est beau gosse, hein.
Il a une petite mèche, cheveux dans le vent.
Il est beau gosse, il a une jolie voix, surtout.
Il a une très belle femme, aussi. C'est le chiracien, par définition, qui devait être le successeur de notre chichi national, mais malheureusement, sa carrière n'a pas été celle qui aurait dû être.
Il est de droite, avant Marine Le Pen, moins extrême. Ouais, les Républicains, voilà, c'est ça. Avant Le Pen, et après c'est Le Pen, et avant il y a Macron.
Il est pas mal, hein.
Alors, il est pas mal, ça l'analyse est juste. Sur le positionnement politique, juste avant Le Pen, vous auriez certainement envie d'affiner, probablement.
Oui, c'est une conception un peu rapide.
Rapide. Quant à cette femme qui dit que vous auriez dû être le successeur de notre chichi, ce sont ses mots, ça c'est pas faux, en tout cas pour ceux qui partagent votre vision politique. Pourquoi avoir abandonné la politique à l'échelle nationale, en tout cas en 2017 ? Parce qu'on va en reparler, peut-être que maintenant la donne a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce que d'abord le métier a beaucoup changé, puis vous l'avez dit, moi j'ai commencé quand même très très jeune. J'ai quitté Europe et 3 mois plus tard j'étais député. Ensuite il y a eu cette aventure avec Chirac, à qui je dois d'être entré en politique. Il n'y avait plus personne autour de lui, donc il me dit « tu seras porte-parole ». Il y avait un côté « c'est celui qui dit qu'il y est ». Et puis, 3 mois avant, il est battu. 3 mois plus tard, il est président. Je me retrouve au gouvernement. Je deviens maire de Troyes Parce qu'il y avait un compagnon de la Libération qui était en fin de carrière, auquel il fallait succéder. Puis après, voilà, c'est une succession d'histoires. Mais j'avais envie surtout de voir d'autres gens. Enfin, moi, je n'ai pas eu toujours que la politique et je n'ai pas que la politique dans le sang. J'adore ça, j'adore mon pays, j'adore le débat, j'adore échanger, j'adore faire. Mais j'adore aussi d'autres sujets. J'ai adoré ce métier. J'ai quitté le micro d'Europe 1 en me retournant. C'est un métier de liberté. Je suis avocat, c'est un métier de liberté. Voilà, j'ai besoin de souffle de liberté. Et je ne suis pas sûr que je dirais à la fin, une fois que j'aurai terminé de compter mes points retraite, que j'aurais raté ma vie si je ne suis pas président de la République. Vous voyez, je l'aurais très bien, quoi.
Oui, mais quand même, vous comptez vos points si vous êtes président aussi.
Ça, c'est autre chose. Il faut voir l'évolution du pays. Mais il y en a beaucoup qui parlent. Pour moi, c'est une décision tellement personnelle. Et qui n'engage que celui qui la prend.
Une décision qui fait son chemin dans votre esprit, quand même, on le comprend. Vous publiez donc Une histoire sentimentale. Vous dédiez ce livre à Jacques Chirac, dont on parlait, décédé le 26 septembre dernier. On le sait, il y a entre vous une filiation. On dit que vous étiez son filleul politique. Il vous a soutenu, il vous a éclairé dans votre engagement politique. Moi, j'ai une question à vous poser qui est peut-être un peu bête. Mais est-ce que si, par exemple, c'était François Mitterrand qui vous avait pris sous son aile, vous auriez pu être un homme de gauche? Quelle est la part de psychologie, d'affectif dans votre choix politique? C'est ça
question,
que je veux dire.
C'est pas du tout une question bête, c'est une question pertinente, parce qu'on ne vient pas de nulle part. Il y a un environnement familial. Moi, je suis issu d'une famille qui est plutôt de gauche. Mon grand-père était militant socialiste. J'ai toutes les cartes de la SFIO et du PS, donc le père de mon père, Barouin, et dont le nom est originaire de la Nièvre, dans le Morvan, qui a pour particularité d'avoir eu comme conseiller général du village natal de ma famille Barouin, François Mitterrand. Donc, je suis cousin, c'est sur la place publique, avec Daniel Vaillant, l'ancien ministre de l'Intérieur, puisque pareil, c'est la même souche. Alors, on n'arrive pas à savoir, enfin si, on arrive à savoir, mais on se chamaille un peu pour savoir si c'est un homme qui a partagé deux femmes ou si c'est une femme qui a partagé deux... voilà. Donc, mais, et dans quel ordre, voilà. Mais ça, en tout cas, il y a une lignée. Et donc, cet environnement-là, mon père était grand maître du Grand Orient, il travaillait dans le secteur de l'économie sociale, mais c'était d'abord et avant tout un gaulliste. C'est-à-dire qu'il a été fasciné par le général de Gaulle, par cet esprit de liberté, par cet esprit de résistance. Donc c'est cette génération-là. Il était à Sciences Po avec mon père, et mes relations avec Chirac sont d'abord personnelles avant d'être politiques. Mais pour répondre en conclusion à votre question, je ne suis pas sûr, compte tenu de l'exercice du pouvoir par la gauche sous François Mitterrand, pour lequel j'ai beaucoup de respect, je le cite d'ailleurs dans le livre, et l'usage de ces belles et grandes valeurs qui en ont été faites, que je me serais engagé sous cette forme-là. Et enfin, Jacques Chirac avait ce tel humanisme, et cette telle vision, et cette telle ouverture d'esprit, et cette telle filiation gaulliste que j'ai été très à l'aise très vite avec lui.
François Barouin, est-ce que Jacques Chirac, dont on parlait, vous l'avez vu jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Vous aviez des liens avec lui?
Oui, bien sûr. Sa maladie était sur la place publique, d'une certaine manière. Et depuis de nombreuses années, ça n'était plus la même lumière dans le regard. Mais c'était la même intensité de le revoir.
Sans nous dire si vous vous présenterez en 2022 à la présidentielle, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un sujet, le fait de vous présenter un jour à une présidentielle, dont vous avez discuté avec Jacques Chirac, qui était votre mentor en politique?
Non, je ne vous répondrai pas.
Vous ne me répondrez pas par pudeur, par...
Déjà, oui, puis je ne vous répondrai pas du tout. Voilà. Pas je vous ai déjà répondu à place.
Dans cet ouvrage, vous revenez sur tous les symboles de la République, notamment Marianne. Alors Marianne, j'ai appris des choses, j'ai appris notamment qu'au départ, ce sont les ennemis de la République qui l'utilisaient.
C'est vrai. Marianne a été utilisée un peu par les bourgeois monarchistes pour qualifier, pas des filles faciles, mais des filles un peu vulgaires, enfin voilà, sans attachement particulier. Et Marie et Anne étaient en fait les deux prénoms les plus usités, et Marianne était le troisième le plus usité, et ça n'est qu'après que les couches sociales plus populaires se sont appropriées ce qui était à l'origine la figure de la liberté. Marianne n'est pas née avec la Révolution.
Non.
C'était d'abord et avant tout la figure de la liberté avec ce bonnet phrygien. Donc c'est cette domination de la liberté. Et puis ensuite, le bonnet demeure, évolue un peu. Ensuite, c'est un joli visage. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'effectivement, ça a été utilisé dans un premier temps par les ennemis de la République. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de visage de Marianne. Je dis d'ailleurs dans le livre qu'il y a...
C'est étonnant.
Et que personne ne peut s'approprier le visage de Marianne. Et il y a une Marianne noire.
C'est ce qu'on apprend dans votre livre, ouais,
exactement.
Ouais.
Après, il y a eu un changement d'équipe municipale, elle a été retirée, ça a fait un scandale. Mais voilà, le visage de Marianne, c'est le visage de la France, de la République, de la liberté, et il n'y a pas de prototype.
Alors, François Barouin, vous ne serez peut-être pas le seul journaliste d'Europe 1 à connaître un destin politique national. Qui sait, peut-être qu'Eva Roque, après avoir mis la main sur la mairie de Nice, s'élancera elle aussi vers les plus hautes fonctions. C'est ce qu'on souhaite au pays, Eva. Mais chaque chose en son temps, posez cette flûte et concentrez-vous, car voici le quiz qui va vous opposer à notre invité François Barouin. C'est une épreuve particulière aujourd'hui, c'est c'est le tiercé quarté gagnant politique. Le principe est simple, je vous fais écouter quatre personnalités politiques, à vous de les identifier. Attention, non seulement l'extrait ne s'arrête pas, mais en plus, vous me donnez vos réponses seulement à la fin. Eva Rock, vous allez ouvrir le bal. Écoutez attentivement, vous répondez, je vous rappelle, une fois l'extrait diffusé. Une personnalité politique trouvée, un point marqué.
Ça, c'était un ballon tout mou. Mais parfois, les mous peuvent atteindre la perfection.
Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir au fond des yeux. Et c'est pourquoi aussi vous me regardez.
Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coupillot derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
C'est la coiffure qui veut garantir que quand je parle du projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler, on va parler du projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler et pas de « est-ce que j'avais l'arrêt à gauche, à droite, au milieu, etc. »
Et bah, vous êtes vraiment... Alors, vous,
non, c'est
là,
facile.
Franchement, pour vous, vous avez eu un... Même moi, je les connais tous, là. Ouais. Allez-y, donnez-moi.
François Hollande.
Oui.
Giscard.
Giscard, ça ce n'est pas un...
Vous parlez d'un Valéry Giscard d'Estaing, excusez-moi.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de respect pour la fonction présidentielle.
Oui. Nicolas Sarkozy.
Oui, Nicolas
et Marlène Schiappa.
Et Marlène Schiappa, c'est un sans faute, 4 points.
Alors là...
Pour Eva Rock, alors c'est la première fois qu'elle marque 4 points.
Mais vous avez fait exprès de le faire très très facile, je pense.
Oui, c'est pas faux. François Baroin,
ouais, voilà,
c'est
merci.
J'aurais pas trouvé la quatrième.
C'est vrai, Marlène Schiappa. Même principe, vous écoutez le quartet gagnant politique et à la fin, vous nous donnez vos réponses. Concentration totale, c'est parti, François Baroin.
Quel est le vrai Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction.
Si vous posez des questions, si vous parlez pour Mitran et si vous parlez pour moi, je ne vais pas aller au cinéma.
Quand un président de la République est à 77% d'opinion négative, bah forcément cet humoriste devient populaire.
C'est en ce sens que je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
Vous avez trouvé François Baroin ?
Il y a un piège, non ?
Ouais, il y a plein de... j'ai l'impression qu'il y en a deux même. Je dirais Le Maire.
Bruno Le Maire, bonne réponse.
Marchais.
Georges Marchais, excellente réponse.
Après, Canteloup ou Gérard.
Non.
Mauvaise réponse.
Ah. Didier Gustin.
Didier Gustin, non. Non, non.
Non, c'est
Didier Gustin, c'était Petit Poucet. Petit Poucet ne va pas dans la forêt.
La culture en Didier Gustin ne va pas jusque là.
Eh ben allez-y,
c'est vrai.
Parce qu'il imite Georges Marchais justement et c'est assez remarquable.
Ah oui, alors, si... non, alors là, donc, c'est si Bruno Le Maire, le vrai Georges Marchais. Ensuite Nicolas Sarkozy imité par Stéphane Guillon.
Stéphane Guillon.
J'aurais dû dire Nicolas
Nous
Sarkozy imité par.
Nous allons attendre un demi-point pour ça. Et le dernier, vous l'avez reconnu.
C'est en ce sens que je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
C'est Villani, Cédric Villani, imité par Cédric Villani lui-même. Il s'imite fort bien, ma foi. Et c'est donc la première fois de l'histoire quasiment qu'Eva Rock remporte le quiz.
Bande de tricheurs.
Un petit peu aidée par des questions plus faciles. Bravo Eva tout de même.
J'ai soudoyé la personne qui fait le quiz, je peux le dire aujourd'hui.
Ne nous racontez pas comment vous l'avez soudoyé. Voici, drapé dans son idéal écologique, la bonne conscience d'Europe 1. Comme la liberté guidant le peuple, mais avec un chemisier plus occultant, Anne Le Gall nous exhorte à plus prendre en compte la planète dans notre manière de consommer. Parfois ça va loin, comme mardi dernier, elle a à nouveau tenu des propos incompréhensibles.
Je vais vous parler de recyclage originaux, des mégots en doudoune, des cheveux en briques.
Ne pas accabler le patient, toujours aller dans le sens du malade, même si bien sûr Nicolas Bedos, on fait tous le même constat.
Il faut avoir bu beaucoup pour en arriver là.
Oui, c'est vrai. Allez Anne, aujourd'hui, on se ressaisit. Vous nous parlez de l'empreinte carbone du numérique, c'est-à-dire...
Oui, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Le numérique pollue et souvent, on a tendance à sous-estimer cette pollution. Si Internet était un pays, donc il serait le cinquième consommateur mondial d'électricité. Et ce qui consomme le plus sur Internet, ce sont les vidéos en streaming que l'on regarde tous. Hein, je me comprends dans le lot.
Ah, moi, je suis méga pollueuse.
Ça représente les deux tiers de la circulation des données sur Internet. Et rien que les vidéos YouTube, c'est l'équivalent de la consommation d'électricité d'une ville comme Lyon.
Mais ça ne pollue qu'en électricité, on est d'accord. Enfin,
ça pollue en électricité, c'est déjà énorme. Oui. Alors après, on peut rajouter aussi tous les composants qu'il y a dans les ordinateurs. Il y a les vidéos, il y a les emails. Les emails, il faut savoir qu'un mail, même s'il passe d'un étage à l'autre, c'est 15 000 km. De trajet entre le point d'arrivée et le point de départ, le temps de passer par tous les serveurs.
D'accord, sauf que ça, quand un mail, c'est moins polluant qu'une lettre.
Non, détrompez-vous.
Enfin, la petite kangou du postier, là, ça pollue tout ça.
Pour stocker tous nos emails, parce qu'on les stocke, on les garde, ces mails, il faut l'équivalent en électricité d'une zone de 4 millions d'habitants, rien que pour les emails des Français. Si on ajoute à cela l'utilisation des applis, on en a en moyenne 35 sur nos téléphones, eh bien, la consommation énergétique du numérique augmente de 9% par an.
Alors moi je suis nostalgique, mais je ne vais pas quand même couper Internet et arrêter de me servir de mail. Qu'est-ce qu'on
mais
fait
Mais vous avez raison. L'idée c'est pas de dire c'était mieux avant, etc. On va pas compter sur la technologie. On pourra pas faire marche arrière et la technologie va aussi nous aider à avoir une consommation intelligente avec des maisons connectées, économes en énergie par exemple. Donc le premier geste indolore qu'on peut faire, nous, c'est nettoyer sa boîte email, ne pas garder trop de vieux mails ou de newsletters.
Non mais je crois que j'en ai un nombre qui est invraisemblable.
Parce que faut savoir qu'une newsletter c'est la même empreinte carbone qu'un sac plastique. Donc si on se désabonne des newsletters inutiles, on fait déjà un petit geste. Il y a des applis pour ça, notamment CleanFox, qui est une application gratuite qu'on peut utiliser, qui va nous aider à sélectionner les newsletters inutiles qu'on
ah, ça,
n'ouvre
c'est bien.
Jamais.
Comment ça s'appelle ?
CleanFox.
Sauf qu'on prend une application pour...
c'est le cerceau
qui se mord la queue. Il faut le faire une fois et puis après on se débarrasse des newsletters inutiles. Un autre geste, c'est de faire appel au bon sens, donc n'avoir qu'un téléphone portable au lieu de deux quand on peut, donc pas un pro, pas un perso, mais on fusionne dans les deux quand on peut, ou utiliser parfois des supports matériels autres que le numérique. Par exemple, un bon vieux DVD, c'est mieux que le streaming. Et c'est la même chose pour les livres papier. Il vaut souvent mieux utiliser un livre papier qu'une liseuse numérique. Alors là, il y a eu des calculs très précis. Si on lit moins de 50 livres par an, il vaut mieux acheter des livres papier que d'utiliser une liseuse numérique. Parce que le
papier,
de toute façon...
Je pense qu'il y a peu de gens qui lisent plus de 50 livres par an.
Justement. Donc, il faut faire tourner le commerce de livres. De toute façon, 90% du papier utilisé dans les livres est du papier durable. Donc, recyclé ou issu de forêts gérées durablement. Donc, tous ces petits gestes, évidemment, ne suffiront pas à gommer l'empreinte numérique. Il faudra aussi compter sur les innovations pour consommer moins, utiliser des énergies renouvelables, refroidir les data centers avec de la géothermie, par exemple. Mais toutes ces petites habitudes que je viens de vous citer, eh bien, si on les met bout à bout, les scientifiques du groupe d'études Shift Project ont calculé qu'on pourrait contenir la hausse de la consommation d'énergie à 1,5% par an au lieu de 9%. Donc c'est déjà ça. Ce sont déjà des petits pas.
Des petits pas. Doria Tillier, vous êtes branchée nouvelle technologie, parce que je sais que Nicolas Bedos publie beaucoup sur Instagram, vous au moins ?
Non, pas du tout, moi. Je ne suis pas du tout branchée nouvelle technologie. Déjà, je sais pas y faire, mais je pense que c'est un peu un acte manqué de ma part. C'est-à-dire, je ne suis pas douée et je pense que je ne veux pas l'être.
Régional géographique, nous aussi on a un camion, mais comme on n'a pas le budget, c'est pas sorcier à l'époque, on va pas plus loin que les Landes. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Montre-nous ta gueule, la truffe humide et le museau volontaire, mon kiki. Dans les Landes, chien et chat du refuge de Saint-Pierre-du-Mont se voient tirer le portrait par une talentueuse photographe qui tient à les mettre en valeur sur le site Facebook de l'association. Des clichés soignés de ces animaux abandonnés pour favoriser leur adoption. Vous nous avez signalé, Stéphane Place, cette belle initiative. À l'heure des réseaux sociaux, chacun se montre un peu cabot. Alors pourquoi pas ces chiens accueillis dans ce refuge.
Moi, je l'aurais pas faite, celle-là. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai. Grâce à Johanna Larouture, figurez-vous, qui leur tire le portrait et pas vite fait en mode photomaton, clic-clac, ne souriez surtout pas. Non, là, ce sont de vraies séances pour obtenir un beau cliché et montrer la personnalité de cet animal. Toucher aussi celles et ceux qui pourraient l'adopter.
Pour les chiens, donc je les amène en promenade, je leur mets une longue longe pour qu'ils puissent courir. Et l'idée, c'est après, par des friandises, les placer un peu comme je veux ou les faire revenir à moi pour avoir des photos en mouvement. Si j'ai un chien qui est quand même très câlin, très porté sur l'humain, je vais essayer de faire ressortir son regard sur toutes les photos. Pour un chien qui est très joueur, très malicieux, ça va être plus des photos en mouvement où voilà, les oreilles sont au vent, la langue est un peu partie partout. L'objectif, c'est de faire adopter les animaux plus rapidement. Depuis qu'on a mis en place ces photos un peu particulières, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de visites au refuge. Par exemple, là, j'ai pris T-Rex, qui est un lévrier, qui a un regard qui est tellement gentil, empreint d'amour, qu'on ne peut que fondre face à lui.
Mais j'ai le même problème avec Eva Rock sur les séances photos qu'on fait ensemble. J'ai un regard très gentil, mais je lui dis toujours « rentre la langue, rentre la langue ». Séance en extérieur, donc une à deux photos par semaine sur la page Facebook du Refuge SPA de Saint-Pierre-du-Mont. Est-ce que ça marche, Stéphane ?
Alors, pour être honnête, c'est un peu compliqué de quantifier les adoptions directement liées à la mise en ligne de ces clichés. Mais la responsable de ce refuge landais de la SPA, Pauline Roubi, constate quand même une hausse de la fréquentation des adoptants grâce à cette initiative.
Ça compte énormément dans l'adoption. Les animaux sont des individus à part entière et nous, on prône l'adoption responsable, c'est-à-dire qu'on va placer un animal dans un foyer qui lui correspond. On a dépassé les 190 abandons là. Maintenant, on a aussi augmenté en termes d'adoption. On est à plus de 780 adoptions sur l'année 2019, ce qui est un très beau record pour le site de Saint-Pierre-du-Mont.
Et une précision importante, Johanna Larouture, hein, la photographe, elle prend aussi les clichés des chats du refuge. Mais figurez-vous que friandise ou pas friandise, c'est pas simple de leur faire prendre la pose. Moins facile en tout cas qu'avec les toutous. Le chat, quand ça le saoule, bah, il met les voiles, point. J'ai pas de photo.
Merci Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux.
À bientôt.
Et là, par exemple, pour vous parler de la grève des footballeuses en Espagne, ce n'est pas le saltimbanque, le guignolo qui vous parle, mais le journaliste. C'est pourquoi, en régie, on va se calmer sur les sons à la con, genre Viva España ou Xylophone. Quand j'annonce qu'on part en Espagne, le sujet est important, reprenons-nous, on prend la direction de l'Espagne.
Escucha, non,
oh, c'est pas possible.
Oh, merde. Bon, tant pis. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Mathieu.
Alors chez vous, il n'y a pas que les indépendantistes qui font grève. On a appris que les footballeuses allaient aussi stopper le travail.
Ben oui, c'est une grande première Mathieu, la grève des joueuses de première division. Elles en ont assez d'être sous-payées. Et les 200 footballeuses de la Liga Iberdrola touchent autour de 700 euros par mois.
Ah oui.
Beaucoup ont des contrats à mi-temps. Elles sont obligées de travailler à côté. Elles réclament donc un salaire de 1000 euros par mois. En France, sachez qu'elles touchent en moyenne 2500 euros chaque mois. Leurs homologues masculins sont évidemment sur une autre planète, avec un salaire qui atteint presque le vôtre, Mathieu, à 200 000 euros par mois.
Pas tout à fait, quand même. Pas tout à fait.
Tout à fait, oui, c'est ça. Ils sont un petit peu en dessous encore.
Et moi, j'ai des tickets restaurants en plus.
Ouais, voilà. Alors, peut-être que Griezmann, Benzema ou Messi se rapprochent plus de vous parce que là, ça se compte en millions d'euros. La grève illimitée va donc commencer le 16 novembre prochain. Pas de match de championnat ce week-end-là, faute de joueuses.
Mais c'est seulement une question d'argent.
Ben non, en fait, évidemment, elle réclame plus de reconnaissance dans l'élan de la Coupe du Monde en France qui a eu lieu au printemps dernier. Vous vous souvenez, l'Espagne se vantait de développer le foot féminin. Et l'année dernière, Atlético de Madrid-Barcelone avait battu un record mondial d'affluence pour un match féminin avec 60 000 spectateurs. Des sponsors sont arrivés, les matchs de championnat sont parfois diffusés à la télé. Les journaux sportifs qui mettaient il y a encore quelques années des femmes nues sur leur dernière page suivent aujourd'hui de plus en plus le foot féminin. Barcelone était d'ailleurs en finale de la Ligue des Champions contre Lyon l'année dernière, mais cet intérêt médiatique ne s'accompagne pas de cette reconnaissance. Les joueuses ont le sentiment de ne pas être respectées. Le problème, c'est que même si tout le monde reconnaît que leurs revendications sont légitimes, pour les plus petits clubs, ceux qui ne s'appuient pas sur une équipe masculine de première division, il est difficile de joindre les deux bouts. Une augmentation des salaires mettrait en péril leur santé financière.
Et elles sont soutenues, cette grève est populaire ou pas ?
Oui, vraiment, sur les réseaux sociaux, les gens leur apportent leur soutien. On le sait, l'Espagne est à la tête en Europe du combat pour l'égalité homme-femme. Mais il y a un collectif qui reste bien silencieux, celui des footballeurs. Pas une déclaration en zone mixte à la fin d'un match, pas même un petit tweet. Ce silence est honteux, on ne vous demande pas grand-chose, simplement un peu d'empathie. S'indigne notamment Gemma Herrero sur Twitter. C'est l'une des rares femmes journalistes à couvrir le foot en Espagne.
Merci Henri de la Guérie et bravo à Axel de Tarlet qui s'est retenu. Il n'a pas fait son accent espagnol pourri et ça, c'est tout à son honneur.
Ah, tout m'intéresse.
Jusqu'à maintenant, il s'est fait retenir. Aujourd'hui, il est en pleine forme, comme à l'époque où il hurlait « Chauffe Marcel !» à un type qui ne devait même pas s'appeler Marcel. Il nous l'a révélé d'ailleurs, il ne s'appelait pas Marcel. Voici Jamy Gourmaud avec nous pour « Tu l'as dit, Jamy », une aventure scientifique sous forme de BD avec les dessins de Leslie Play. On apprend plein de choses. Le chocolat fait-il grossir? Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Quel point commun un poulpe et une fusée, on l'a dit tout à l'heure? Comment se forme un arc-en-ciel? Ma préférée, est-ce que les poissons ont soif? Ça, c'est une question que je me suis déjà posée.
Génial, cette question.
Jamy, est-ce que les poissons ont soif?
Eh bien oui, les poissons...
Mais comment c'est possible? Ils ont quand même la bouche.
Les poissons doivent s'hydrater. Hein, ce sont comme nous. Voilà. Mais alors en fait, ce qui est intéressant avec les poissons, c'est qu'ils ne vont pas s'hydrater de la même manière suivant que ce sont des poissons d'eau douce ou des poissons d'eau de mer. Parce que dans l'eau de mer, bien, vous le savez, il y a du sel. Et le sel,
donc dans la mer,
c'est pas top.
Ils avalent pas l'eau directement.
Non, ils vont capter une partie de l'eau au niveau de leurs écailles, de la surface de l'animal, ce qui n'est pas le cas chez le poisson d'eau douce. Parce que là, vous me prenez de court, c'est pas facile. C'est une histoire. Mais non, mais
c'est complexe.
En fait, c'est une histoire, pour bien comprendre le truc, c'est une histoire de ce qu'on appelle de pression osmotique. C'est-à-dire que, avec les solutions qui sont salées et celles qui ne sont pas salées, l'eau se déplace toujours de la solution la moins salée vers la solution la plus salée pour chercher à équilibrer les deux. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec nos poissons d'eau de mer et nos poissons d'eau
douce. J'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Oui. Il manque juste des accessoires et Jamy qui fait des gestes et j'ai l'impression d'y être dans le camion. C'est magique. Jamy, une question très importante, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce qu'on peut être comme vous, avoir observé tous les phénomènes mécaniques du monde, tout ça, et croire quand même à une transcendance?
je me pose des questions.
Oui.
Voilà, ce qui est un peu naturel en ce qui me concerne. Voilà, je me pose des questions.
Vous n'avez pas de réponse.
Voilà, non.
Pas de certitude. Ah. Le mathématicien.
Et je crains que le jour où je serai en mesure de vous répondre, ben ça ne sera pas possible.
Ça ne sera pas possible. Le mathématicien Cédric Villani a choisi de s'engager politiquement. Est-ce que vous, ça vous intéresserait, à un moment de votre carrière, de bifurquer vers la politique ?
Moi, non. Ce que j'avais trouvé intéressant quand Cédric Villani s'est engagé, il y a eu à un moment donné une sorte de petit tollé dans les cercles politiques. Comment un scientifique pouvait-il s'engager en politique ? Et pourquoi ça n'aurait pas été possible ? On avait l'impression que parce qu'il était scientifique, il n'avait pas sa place en politique. Et ça dénotait une chose, à mon sens, c'est qu'on a toujours l'impression que la science est déconnectée du monde dans lequel on vit. Alors que, bien au contraire, la science fait partie de notre culture, elle est au cœur de notre vie. On a parlé d'environnement tout à l'heure. Les questions d'environnement ne se résoudront qu'avec la science. Voilà. On a parlé d'économie, les questions d'économie se résoudront.
L'économiste est vachement intéressant.
En partie grâce à la science. Donc vous voyez, il y a un moment donné, on a vraiment le sentiment que le scientifique n'a pas sa place dans le processus de décision citoyenne.
Jamy, on vous écoute parler, on a envie de revoir C'est pas sorcier. Ça ne reviendra plus jamais à la télé, C'est pas sorcier, c'est fini.
Ah, ça je ne sais pas. Avec Red et moi, il y a peu de chance.
Le 15 novembre sort son nouvel album sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches.
Tiens-toi bien à mon cœur, car l'amour ça va, ça va, ça va vite. Accroche-toi bien à mon cœur, tout autour de nous, le monde est en fuite. L'amour, tu ne savais pas, ça fonce tout droit, soudain la route nous quitte.
Nathalie Dessay, c'est peut-être juste un ressenti personnel, mais c'est aussi à travers les interviews que j'ai lues de vous, on vous sent beaucoup plus décontracté et épanoui depuis que vous avez quitté l'opéra et que vous découvrez...
Non, mais j'étais épanouie à l'opéra aussi.
C'est vrai.
Ben oui, mais
on vous sent plus détendu en tout cas.
Oui, mais enfin, c'est-à-dire que j'ai grandi, sinon vieilli, donc je me suis bonifiée.
Mais le quotidien doit être quand même plus stressant quand on est chanteur d'opéra. Je lisais dans certaines interviews, vous disiez, le moindre courant d'air, on flippe,
oui,
on a
oui,
peur.
Oui, c'est flippant, parce qu'il ne faut jamais être malade. C'est-à-dire que la moindre contrariété, j'allais dire presque, fait que vous allez chanter moins bien le soir. Donc il faut vivre sous cloche, et ça c'est vrai que c'est pénible. Là en ce moment par exemple j'ai un petit coup de froid.
C'est pas
mais
grave.
Je m'en fous, mais je m'en fous, mais d'une force. Mais c'est génial, quand je jouais au théâtre il y a deux jours, je m'en foutais d'être malade, je veux dire. Alors, en revanche, pour chanter, c'est quand même toujours un problème d'être malade.
Bah oui, c'est la même chose.
Parce que quand même, ce qu'on fait, surtout derrière un micro, doit être quand même précis et beau. Et on ne peut pas se permettre de chanter comme ça, parce que je ne suis pas encore Tom Waits, hélas. Donc, voilà.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a développé le principe des chorales à l'école. Est-ce que vous trouvez ça bien ?
Oui, c'est bien ça.
Mais ça sert à quoi, la chorale ? Est-ce que vous pensez que c'est par la chorale qu'on va intéresser les enfants à la
Écoutez,
musique ?
Écoutez, il faut commencer
par un bout. Parce que moi, la flûte à bec, ça fait une dégoûtée de la musique.
Oui, on est d'accord, moi aussi. Mais la chorale, ça ne fait pas de mal. Ça ne peut pas faire de mal, ça. Sûrement pas. Chanter ensemble. En plus, les jeunes, aujourd'hui, ils ont envie de chanter. Donc, c'est très bien.
C'est
alors après, il faut voir quoi.
Oui,
qu'est-ce
ça.
Qu'on va leur faire chanter.
C'est un problème, oui. Effectivement.
Mais il y a des tas de très, très belles choses à chanter, surtout en chœur.
L'album sort le 15 novembre. La tournée suivra en 2020 et va juste une date ou deux. Vous avez quelques dates à nous donner ?
Alors, il y a plein de dates déjà que vous retrouverez évidemment sur Europe1.fr. Il y en a une notamment au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ce sera le 9
très
juin.
Très bien, c'est à côté de chez moi.
Voilà, c'est à côté de chez vous, mais aussi Marseille, Mérignac, Tours, Nantes, Deauville. J'en passe et des meilleurs.
Une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la Turte. Il veut pour Beck jouer comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur. Allô, c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle.
Très bel album, Nathalie Dessay. Et un album c'est bien, mais la scène c'est encore mieux. Eva, et on aura des dates en 2020.
En 2020, alors pour l'instant vous êtes toujours sur scène, mais pour une pièce de théâtre, La légende d'une vie de Stéphane Zweig. Et effectivement, le 20 décembre, pardon, il y a une date supplémentaire, Nathalie Dessay, vous allez chanter Broadway à la Scène musicale. Et puis effectivement, depuis à partir du printemps, ce sera sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches avec Yvan Cassard au piano et toute une formation autour de vous. Il y a des dates partout en France, on vous mettra tout ça évidemment sur Europe1.fr.
Je reviens sur la date du 20 décembre prochain, vous chanterez des comédies musicales de Broadway à la Scène musicale à Boulogne-Billancourt. Lors de cette représentation, vous rendrez notamment hommage à Michel Legrand, avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous retenez de Michel Legrand? Vous dites de l'œuvre de Michel Legrand qu'elle vous émeut autant que celle de Mozart.
Oui, c'est-à-dire que Michel, c'est vraiment un génie de la mélodie et de l'harmonie, au même titre que Mozart, oui, c'est vrai. Et c'est aussi un touche-à-tout, et c'est ça qui m'émeut particulièrement avec lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient du classique, qui a fait ses classes avec Nadia Boulanger, entre autres, et qui a commencé le piano à l'âge de 4 ans, et qui a fait toutes ses classes d'harmonie, de contrepoint, de composition, et qui ensuite s'est dirigé vers l'orchestration de musique de film, les chansons, le jazz, la musique classique aussi, puisqu'elle a composé un concerto pour violoncelle, un concerto pour piano, et qu'il m'a composé notamment une espèce d'oratorio pour une voix et pour grand orchestre. Enfin, c'est quelqu'un qui s'arrêtait jamais à ce qu'il savait faire. Et de ce point de vue-là, c'est un être extrêmement libre. Et c'est ça qui m'a appris, probablement.
Le 20 décembre, vous allez chanter « J'ai lu avec votre fille, Naïma Naouri ». Qu'est-ce que ça fait de partager la scène avec sa fille? Qui est le plus stressé, vous ou elle?
Je ne sais pas. Moi, je suis toujours stressée. Donc, de toute façon,
vous êtes toujours stressée?
Oui, extrêmement stressée. Ça m'aura bien gâché la vie, cette histoire de trac, en tout cas.
Le trac, il est le même quand on chante du lyrique et quand on reprend Nougaro? Ou ça n'a rien à voir aussi?
Alors, il y a toujours l'angoisse de se tromper dans les paroles. Ça, de tout temps à jamais. Et en plus, quand on chante du lyrique, il y a le trac de ne pas arriver à faire la note correctement, de ne pas chanter assez bien.
Ça
peut arriver. Parce qu'il peut arriver que vous ayez un chat dans la gorge.
Et vous êtes arrivé un soir à l'opéra de ne pas sortir une note?
Oui, d'avoir un graillon, je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr que ça arrive.
Alors Nathalie Dessay, vous disiez avoir en partie arrêté l'opéra parce que c'était stressant. Je suis désolé, mais vous allez à présent replonger dans l'angoisse de vos premières auditions, puisque voici venir le duel qui va vous opposer à Eva Rock, la Maria Callas des Alpes-Maritimes. Il paraît que lorsque vous étiez soprano coloratour, vous atteignez le contre-la. Eh bien elle est capable d'atteindre le contre-si. Bon, il lui faut un peu de temps, mais si on a la patience... Quand c'était ça, Eva, que vous aviez tenté d'atteindre le contre-si?
Nathalie, je vous raconterai pourquoi
avec André Manoukian,
on me fait chanter.
C'était
oui,
ça, hein. Oui. Alors nous y voilà, le face-à-face vocal que j'annonçais, l'air des clochettes n'étant pas le plus simple, et comme Nathalie n'a pas pratiqué le chant lyrique depuis un moment, Eva, vous êtes polie, vous prenez la main, allez-y. Bon, non, je déconne, je suis taquin, mais
pas
sortionnaire. En honneur de votre album sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, vous chantez Nougaro, le thème du jour sera plutôt les reprises. C'est parti, la première de vous deux qui trouve marque un point. On cherche donc un tube,
d'accord.
Ça sera que des tubes, hein, donc c'est facile.
Il faut qu'on trouve l'interprète.
Il faut retrouver l'original de ce que nous allons entendre ici. Nathalie Dessay, Eva Rock, voici une version country d'un titre extrêmement connu. Là, le groupe, c'est The Pigs with John Williamson. Mais qui chante l'original de
ça? Up on him, he up on her, don't pay him any attention. Cause she cried her tears after three good years, you can't be mad at her.
Beyoncé. Bonne réponse, single ladies.
C'était loin
de
l'original, effectivement. Ah, préfère Beyoncé quand même.
Oui. C'est assez spécial. D'ailleurs, c'est que le début du quiz. Il y a d'autres choses encore plus réjouissantes. Une reprise un peu plus originale encore. Voici le Ukulele Orchestra of Great Britain. Quel tube interprète-t-il? J'ai la réponse sous les yeux, je ne le vois pas. Je ne l'entends pas.
C'est dans les aigus là qu'il faut trouver le truc ou pas?
Sweet Dreams.
Nathalie Dessay, effectivement, elle est plus rapide que vous, Eva. Dreams de Eurythmics, effectivement. Le début, on aurait plutôt dit un film de Kusturica, mais bon. Toujours plus étonnant, une chanson très connue maintenant, interprétée avec des fax.
Des fax.
Quel est l'original?
Mamma Mia?
Non.
Bohemian Rhapsody.
Ah oui, Bohemian
Rhapsody.
Oui,
Nicolas Garraud, vous ne jouez pas dans le quiz, mais vous répondez.
Queen, bien sûr.
Queen avec effectivement Freddie Mercury.
Ouais, c'est pour ça que j'ai dit
c'était
Mamma Mia.
C'était Bohemian Rhapsody interprété par des fax. Après, qui a eu l'idée
de
prendre des fax pour interpréter Bohemian
Est-ce
Rhapsody?
Est-ce que vous pouvez expliquer aux plus jeunes auditeurs ce que c'est qu'un fax surtout?
Qui est Queen? Non, mais je n'aime pas ce monde-là. Je suis obligé d'expliquer ce qu'est un fax et qui sont
Queen.
Oui,
ça, parce qu'il y a eu un film.
Oui, c'est vrai que maintenant, alors tous les jeunes écoutent Queen. Maintenant, ils redécouvrent ça. En revanche, ils n'ont pas redécouvert les fax. Cette fois, vous devez me trouver l'interprète et la chanson, car vous connaissez les deux.
Je danse pieds nus
sous un soleil rouge, les dieux
à Jeanne Masse. Oui. Jeanne Masse.
Doucement, pas du tout Jeanne Masse.
Non, 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 Rose.
Rose quelque chose. Demi-point partout. Mais qui chante? Quelqu'un que vous connaissez très très bien.
Quelqu'un que je connais très très bien.
Bah, enfin, moi, dans les histoires que j'invente, dans le passé que je vous prête et les relations que vous avez eues dans votre jeunesse. Dick Rivers, effectivement, c'était lui.
Excellent.
Oui, j'ai eu une liaison avec Dick Rivers pendant des années, oui, Nathalie de
Sachs. Fictive, évidemment, mais.
L'esprit très romancé.
Le duo Brigitte fait une très belle reprise. Ah, laquelle?
C'est George Michael? Non.
I want your sex, de George Michael. Un petit dernier dans le grand n'importe quoi. Quel est ce titre interprété à l'aide d'un jouet pour chien qui fait pouet pouet?
Ça c'est Queen aussi, non?
Oui, c'est encore Queen. Bonne réponse de Nathalie Dessé. C'est encore Bohemian Rhapsody dans sa version la plus pure, la plus belle, probablement interprétée donc par un jouet pour chien qui fait pouet pouet.
Qui a fait ça?
Vous savez, c'est con, mais je pense que c'est compliqué aussi à faire chanter Bohemian
Rhapsody. Oui, justement, compliqué pour un tel résultat, ça vaut vraiment pas le coup.
Exactement. Qui remporte le quiz? C'est Nathalie Dessé qui remporte le quiz. Et haut la main, son album hommage à Nougaro sort le 15 novembre. Nathalie Dessé, l'invitée d'Europe 1 cet après-midi.